RFI, 21h à Paris, 20h en temps universel.
Christophe Paget.
Bonsoir à toutes et à tous. Ce jeudi à Londres, des chefs d'état-major d'une trentaine de pays étaient réunis pour parler d'un plan de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Réunion aussi à Bruxelles, des 27 dirigeants européens en sommet. Dans un message vidéo, le président ukrainien les a appelés à maintenir la pression sur Vladimir Poutine. Il n'aura pas attendu longtemps. Le Premier ministre canadien Mark Carney, arrivé au pouvoir il y a une semaine après le départ de Justin Trudeau, doit annoncer dimanche la tenue d'élections législatives. Ce devrait être pour la fin avril. Pendant la campagne, on devrait surtout parler de la relation avec le voisin américain, nous dira Anne Verdaguet. Ce jeudi, un tribunal près d'Alger a requis 10 ans de prison ferme contre l'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, 80 ans. Emprisonné depuis 4 mois, nous entendrons Arnaud Benedetti, le fondateur d'un comité de soutien de l'écrivain. Réunion ce jeudi à Londres des chefs d'état-major d'une trentaine de pays. Sur la table, un plan de maintien de la paix en cas de cessez-le-feu entre l'Ukraine et la Russie. Un plan qui, selon le Premier ministre britannique Keir Starmer, prend forme. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky, lui, était en Norvège, d'où il a appelé l'Europe à rester ferme face à Vladimir Poutine avant la rencontre russo-américaine de ce lundi en Arabie Saoudite. Kiev est favorable à un cessez-le-feu, mais le président russe n'est disposé qu'à un moratoire d'un mois sur les attaques menées contre les installations énergétiques. En dépit de ces promesses, rien n'a changé, a déploré Volodymyr Zelensky dans un message vidéo diffusé à Bruxelles devant les dirigeants européens réunis en sommet. Le président ukrainien a aussi précisé que l'Ukraine ne discutera pas d'un transfert aux États-Unis de la propriété de ses centrales nucléaires, suggéré hier par le président américain Donald Trump dans un coup de fil sur lequel Volodymyr Zelensky est revenu. Il a aussi appelé à maintenir la pression sur Vladimir Poutine.
J'ai eu une conversation productive hier avec le président Trump. Depuis le tout début de la guerre, l'Ukraine plaide pour ce qui est au cœur des discussions en ce moment, la fin des attaques contre l'énergie, contre les infrastructures et pour un cessez-le-feu en mer. Et nous continuons à soutenir ces efforts. Nos équipes se battront aussi pour un cessez-le-feu sur Terre. Je vous exhorte à poursuivre les sanctions contre la Russie, à lutter contre les stratagèmes et les tentatives de la Russie de financer sa guerre. Les efforts diplomatiques ne signifient pas qu'il faut réduire la pression sur la Russie. Nous devons continuer à pousser la Russie vers la paix. Ensemble, avec vous, bien sûr, aussi avec les États-Unis et avec tous nos autres partenaires.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Le Hamas annonce avoir tiré des roquettes sur Tel Aviv. L'une d'entre elles aurait été détruite par l'armée, deux autres seraient tombées dans des zones inhabitées. C'est la première riposte du mouvement islamiste palestinien depuis la reprise des bombardements israéliens sur la bande de Gaza. Des frappes qui ont fait, selon la défense civile de la bande de Gaza, 504 morts. L'armée israélienne dit avoir tué le chef de la sécurité intérieure du Hamas. Ce matin, elle a interdit toute circulation sur le principal axe routier qui traverse la bande de Gaza, du nord au sud. Hier, elle avait annoncé des opérations terrestres ciblées et ce soir, elle dit étendre son opération terrestre à la ville de Rafah. En Chine, 4 Canadiens ont été exécutés ces dernières semaines. Le Canada, ce jeudi, condamne fermement ces exécutions. Pékin déclare de son côté que le Canada devrait respecter l'état de droit et cesser d'interférer dans la souveraineté judiciaire de la Chine. Les relations sont tendues entre les deux pays depuis l'arrestation en 2018 par les autorités canadiennes d'une responsable du géant chinois Huawei. La Chine avait en représailles emprisonné 2 ressortissants canadiens. Canada toujours, on a appris ce jeudi que le Premier ministre Mark Carney, qui vient d'entrer en fonction après le départ de Justin Trudeau, doit annoncer ce dimanche la tenue d'élections législatives, ce serait pour le 28 avril. Et le thème principal devrait logiquement être la relation avec le voisin américain, Anne Verdaguet.
Première lecture, une lecture évidemment préoccupante, inquiétante, compte tenu des 10 ans qui ont été requis.
Anne Verdaguet, que nous entendrons dans un bref instant. Anne Verdaguet qui arrive, nous l'écoutons.
Les partis d'opposition au Canada qui réclament la tenue de ces élections depuis plusieurs mois sont déjà sur les rangs. Le Parti conservateur et le nouveau Parti démocratique ont désigné la plupart de leurs candidats, tout comme le Parti libéral au pouvoir qui mise sur l'expérience de banquier central du Premier ministre Mark Carney pour rassurer les Canadiens confrontés à une guerre douanière avec les États-Unis. Ce scrutin se joue principalement sur le bras de fer entamé avec Donald Trump. Le nouveau Premier ministre veut profiter de ce contexte international ornais normes. Son parti, promis à une lourde défaite électorale lors de la démission de Justin Trudeau, est à présent au coude à coude dans les sondages avec le parti conservateur. Mac Carney, qui a aidé le Canada à surmonter la crise financière de 2008 avant de se retrouver à la tête de la Banque d'Angleterre en plein Brexit, semble être plébiscité pour son expérience de gestion des crises. Donald Trump s'est lui déjà invité dans la campagne électorale canadienne, donnant un coup de pouce à Mac Carney en affirmant sur Fox News qu'il était plus facile de traiter avec un libéral.
Libération ce jeudi d'un Américain détenu par les talibans. Une libération qui s'est faite au terme d'une visite, c'est rare, de responsables américains à Kaboul. Deux Américains avaient déjà été libérés au mois de janvier, échangés contre un combattant afghan condamné pour narcoterrorisme aux États-Unis. Libération aussi d'Olivier Grondeau. Le Français avait été arrêté en Iran en octobre 2022. On a appris ce matin qu'il avait regagné la France lundi soir. Olivier Grondeau, 34 ans, avait été condamné à 5 ans de prison pour espionnage. Un autre Français retenu en Iran depuis 4 mois a pu quitter le territoire hier soir. Boualem Sansal, par contre, risque 10 ans de prison. C'est la peine requise ce jeudi par un tribunal près d'Alger contre l'écrivain franco-algérien, emprisonné depuis 4 mois. Boualem Sansal, 80 ans, est connu pour ses critiques du pouvoir algérien. Il est accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale de l'Algérie. Je vous propose d'écouter la réaction d'Arnaud Benedetti après cette libération. Arnaud Benedetti, fondateur d'un... Après cette peine requise de 10 ans de prison, Arnaud Benedetti, fondateur d'un comité de soutien de l'écrivain.
Première lecture, une lecture évidemment préoccupante, inquiétante, compte tenu des 10 ans qui ont été requis contre Boualem Sansal, à partir des chefs d'inculpation qui lui avaient déjà été notifiés il y a plusieurs semaines. L'État algérien pourrait se saisir d'une condamnation qui apparaît malheureusement inévitable pour continuer à se servir de Boualem Sansal pour faire pression sur la France. Une lecture plus optimiste, c'est de prendre acte de cette accélération, prendre acte aussi du fait que manifestement, d'après ce que l'on croit savoir, il y a au moins un chef d'inculpation qui lui avait été notifié il y a peu de temps qui serait tombé, notamment le chef d'inculpation concernant l'intelligence avec une partie étrangère. On peut y voir peut-être une issue de sortie de crise. Cette condamnation pourrait donner lieu par la suite à une grâce présidentielle. Mais pour l'instant, nous restons quand même extrêmement prudents, extrêmement mobilisés.
Arnaud Benedetti, joint par Sylvie Coffi. Contrairement à ce qui était prévu, les élèves de CM2 ne recevront pas en fin d'année scolaire le livre « La Belle et la Bête » illustré par Jules. Le ministère de l'Éducation a annulé à la dernière minute, la veille de la mise sous presse, la commande de quelques 800 000 exemplaires du conte traditionnel, écrit en 1756, et illustré cette fois par l'auteur de la série humoristique Silex and the City. Jules a beaucoup de talent, il manie l'ironie, le second degré, mais sans accompagnement pédagogique, je pense que ça n'est pas adapté, a estimé ce jeudi la ministre de l'Éducation Elisabeth Borne. Le ministère a également fait valoir que le dessinateur représentait les personnages sur des réseaux sociaux, alors que ce classique est destiné à des élèves qui ne sont pas censés les utiliser avant l'âge de 13 ans. Le dessinateur, un ancien de Charlie Hebdo, dénonce lui un cas grave de censure.
La belle, la princesse, n'est à aucun moment sur les réseaux sociaux. Les deux communiqués de presse du ministère de l'Éducation nationale sont un tissu d'inexactitude et de mensonges. Dans les arguments qu'ils opposent, c'est les choses pour lesquelles précisément ils sont venus me chercher et qui sont en train de désavouer aujourd'hui. Ce sont des prétextes pour autre chose, une censure qui cache son nom pour d'autres raisons, sans doute beaucoup plus honteuse, mais qu'on peut pas évidemment présenter, comme toutes les censures. Hein. Et effectivement, la seule chose qui distingue ce livre des autres livres de contes de fées qui peuvent circuler dans les écoles, c'est peut-être que les personnages, c'est pas des blonds aux cheveux longs qu'on m'envoie sur la place du marché à midi, le jour du dimanche à Versailles. C'est des gens qui ressemblent à la France d'aujourd'hui, qui ressemblent aux élèves de CM2 d'aujourd'hui, qui sont un peu plus mat, ils ont les cheveux bruns, ils ont les cheveux frisés. Et ben ça... Qu'on ait l'air méditerranéen, napolitain, grec, libanais, algérien, eh ben ça c'est intolérable pour un certain nombre de gens au ministère de l'Éducation nationale. C'est une France qu'ils ne veulent pas voir. Et le ministère de l'Éducation nationale, il faillit à sa mission. Et c'est une faute politique véritable que d'opérer ce genre de censure pour ce genre de raisons-là.
Jules, joint par Sophie Torlotin. Le Comité international olympique a élu son président. Et pour la première fois de l'histoire du CIO, c'est une femme, la Zimbabwéenne Kirsty Coventry. Un seul tour a suffi à la ministre zimbabwéenne des sports, 7 fois médaillée olympique de natation, pour être élue. Enfin, Greenpeace, condamné à verser 665 millions de dollars à une entreprise américaine. Des dommages et intérêts pour l'exploitant d'un oléoduc auquel l'ONG s'était opposée. Décision prise par un tribunal du Dakota du Nord. RFI, 21h10 à Paris.